Bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue pour cette cyberscopie à la librairie Lipsy, un lieu que bon nombre d'entre nous adorons. On est des fétichistes des bouquins et c'est vrai qu'être ici avec Bernard Debaille dans cette librairie, c'est toujours un grand bonheur. Et le bonheur est double ce soir puisque c'est une cyberscopie qui est dédiée à Colette Chiman, qui a publié récemment chez Odile Jacob, en 2011, « Changer de sexe, illusion et réalité ». Alors Colette, moi je suis très ému d'être là à cette place ce soir, parce que vous avez été mon professeur à l'université, vous étiez professeur à Paris Descartes, et j'ai le souvenir lointain qu'à l'époque de quelques cours magistraux dans l'Amphivulpian, vous aviez dit comme ça, à l'époque c'était un petit peu énigmatique pour moi, « Je suis en train de traduire Stoller ». Donc on devait être dans des années 89-90, masculin-féminin peut-être. Mmh. Voilà. Alors, Colette, vous avez été bien sûr un professeur très important pour un certain nombre d'entre nous à l'université Paris Descartes, mais vous avez été aussi psychiatre au centre Alfred Binet, dans la Dream Team, si je peux dire. Et puis, vous êtes psychanalyste LSPP, psychanalyste formatrice. Et vous avez, on peut le dire, travaillé pendant bien des années, hein, le sujet qui constitue ce livre, et que peut-être vous accepteriez l'idée qu'il y a là une synthèse qui a la grande vertu de s'adresser à un large public. C'est souvent la règle du jeu dans les bouquins publiés chez Odile Jacob, qu'ils puissent être accessibles à un public large spectre. Et je crois que, et on va en discuter ce soir, vous avez effectivement réussi à traduire beaucoup de complexité théorico-clinique dans un propos qui est vraiment accessible et qui représente ce qu'on peut espérer de mieux en termes de propos grand public sur une question hautement complexe et polémique. Alors, c'est Pierre-Henri Castel que je remercie vraiment beaucoup d'avoir accepté d'être là parmi nous ce soir, qui sera votre discutant, le discutant principal. Moi, je vais me borner à cette introduction. Et puis, je vous passerai la parole pour que vous fassiez une introduction de votre livre. Pierre-Henri Castel ensuite discutera. Peut-être que je m'en faufilerai pour une ou deux questions, parce que quand même, ça m'étonnerait que je résiste à ça. Et puis ensuite, on discutera tous ensemble. Donc, Colette, merci d'avoir accepté d'être là pour cette cyberscopie. Merci à Alain Casanova, fidèle... mémoire de beaucoup de nos péripéties grâce à ta caméra et à ce que tu peux mettre sur Psynem et ce que tu peux aussi transformer en film dans ta association DID. Donc Colette, à vous pour une présentation et puis ensuite la discussion de Pierre-Henri Castel et probablement quelques questions de ma part avant que tous ensemble nous puissions discuter.
Merci à tous d'être venus, merci à M. Debaille de nous accueillir. Je ne vais pas faire un résumé de mon livre. Ce que je voudrais, c'est soulever des questions autour desquelles on puisse discuter. Une première remarque, il y a toujours eu, aussi loin qu'on remonte, des personnes qui ont refusé de vivre dans leur sexe biologique et qui ont réussi à vivre dans l'autre sexe. Curieusement, il y a eu plus de femmes qui ont réussi à vivre en homme incognito que d'hommes en femme. Il faudra méditer là-dessus. Mais que ce soit ce que j'appelle les anonymes du passé, ou que ce soit les cultures où il existe un troisième genre, ou un troisième sexe, comme on voudra, on reviendra sur ces deux mots, et il y a une différence fondamentale avec les transsexuels d'aujourd'hui, c'est qu'il n'existait pas de transformation hormonochirurgicale, il n'existait pas d'hormones qu'on donnait et qui transformaient le corps, et les interventions qu'on faisait, il pouvait arriver qu'on castre quelqu'un, mais on ne tentait pas de mimer un homme ou une femme, de faire une transformation au niveau du corps. La deuxième différence, c'est que dans un certain nombre de cas, non pas les anonymes du passé, comme je dis, mais ceux qui avaient un statut social, c'était des sujets qui étaient désignés par la société, parfois choisissaient même ce statut, mais il y avait un statut social. Par exemple, les hijras en Inde, ou le troisième sexe chez les Inuits. Alors que les transsexuels aujourd'hui dans notre culture se plaignent précisément de ne pas avoir de statut. Et ce que demandent les patients que nous voyons couramment, qui viennent demander une transformation hormonochirurgicale du corps, est différent de ce que demandent les militants, qui brandissent le thème de la transidentité, alors que les patients, eux, demandent à passer de l'autre côté, à vivre en homme et en femme incognito, le plus banalement possible. Ce livre, c'est une réédition, mais c'est une réécriture. Vous ne pourrez pas vous rendre compte que tout a été réécrit, parce que je n'ai pas transformé absolument tous les chapitres, mais tout a été revu, et j'ai ajouté un avant-propos où je me suis expliqué sur les attaques dont j'ai été l'objet. J'ai été l'objet d'attaques diffamatoires, d'une véritable persécution, dont l'agent principal a été Act Up Paris. Au jour d'aujourd'hui, je n'ai pas encore compris pourquoi ils m'ont choisi comme cible. Quand j'ai soulevé cette question au procès que je leur ai fait, j'ai été obligé de leur faire un procès. Je ne suis pas procédurière, c'est le premier procès que j'ai fait de ma vie. J'espère que ça restera le seul. C'est parce qu'il y avait une escalade de la violence à mon égard. Ils ont commencé par publier des comptes rendus odieux de tout ce que j'écrivais. Ensuite, ils ont écrit à mes éditeurs qu'il fallait retirer ces livres abominables de leur catalogue. Enfin, ils sont venus faire ce qu'ils appellent un zapping, c'est-à-dire m'empêcher de parler. Ce soir, j'étais à moitié tranquille parce qu'il y a une dizaine de jours à Rennes, j'ai eu le comité d'accueil. Oui, avec exactement les propos qu'ils piquent sur le site internet d'Act Up. Et ils en sont arrivés à faire ce qu'ils appellent un réveil matin. C'est-à-dire qu'à 7h du matin, ils sont arrivés, une bande, avec des biglophones, des caméras, faire du scandale devant mon immeuble, coller des tracts ignominieux sur les portes de l'immeuble. Le gardien a dû passer toute la matinée à les enlever, sur les voitures qui étaient dans la rue. Et moi, j'écoutais la radio, ça je ne l'ai pas raconté dans l'avant-propos, j'écoutais la radio qui parlait de problèmes d'emploi. Et j'entends un brouhaha, je me dis, il y a un problème, il y a une manifestation à la maison de la radio, c'est une question sensible. Je ne suis pas allé à mes fenêtres voir ce qui se passait. L'idée ne m'était pas venue qu'on pouvait venir manifester chez moi, contre moi. J'ai pris l'ascenseur pour descendre jusqu'au parking, je me suis rendu compte de rien, et c'est quand je suis rentré à 5h de l'après-midi que le gardien m'a remis les tracts et m'a raconté ce qui s'était passé. Il a appelé la police. La police a exigé que ce soit le syndic qui les appelle, mais à 7h du matin, le syndic n'est pas dans ses bureaux, et ça en est resté là. Le gardien a dû nettoyer tout ce qui se passait. Alors à ce moment-là, je conçois qu'un psychanalyste ait toujours écouté ses fantasmes. Mon fantasme a été, qu'est-ce qu'ils peuvent faire de plus? Eh bien, ils peuvent venir un jour me casser la gueule et puis casser mon ordinateur avec mon matériel de recherche. Vous savez, celui qui écrit son ordinateur, ses matériaux de recherche, c'est aussi précieux que son intégrité corporelle. Donc, j'ai consulté un avocat qui m'a dit qu'il y avait matière à faire un procès pour diffamation publique. Ce procès a eu lieu 2 ans plus tard, il y a eu un appel, ils se sont pourvus en cassation, ils ont en appel une condamnation aggravée, ils ont été déboutés en cassation. Mais ils n'ont jamais baissé la garde. La justice est injuste, la justice est transphobe, je suis transphobe. Et ils continuent de publier les mêmes salades sur Internet et d'inspirer les mouvements militants, il y a une dizaine de jours, donc j'ai encore eu affaire à un comité d'accueil à Rennes. On s'est attaché à des mots sortis du contexte et même à des mots que je n'ai pas utilisés par moi. Alors, pourquoi m'ont-ils choisi comme cible? Quand j'ai soulevé cette question, je n'ai pas eu de réponse. La réponse de l'avocate d'Act Up a été « Vous êtes la seule à avoir écrit en français. » Faut pas exagérer, je ne suis pas la seule à avoir écrit en français. Non, vous avez publié un gros livre.
Oui,
mais... Non, mais c'est important ce que dit Pierre-Henri. Il n'est pas compréhensible. Parce que j'ai déjà demandé à une collègue lacanienne pourquoi elle n'était pas l'objet de la tête. Elle m'a dit, toi, on comprend ce que tu écris, moi, on ne comprend pas ce que j'écris. Je ne sais pas si c'est ça. Mais l'idée centrale que je défends, et je ne vois pas comment quelqu'un doué de raison pourrait dire autre chose, c'est qu'on ne peut pas changer de sexe, on ne peut pas transformer un homme biologique en femme biologique. On peut transformer un homme biologique en homme social, lui attribuer une position de social d'homme, lui donner une apparence d'homme, devenir femme, une apparence de femme, des droits de femme, tout ce qu'on voudra, mais on n'a pas créé une femme biologique, et vice-versa pour la femme qui veut devenir un homme. Alors, dans ces conditions, je dis que changer de sexe est une idée folle, on demande quelque chose qui est impossible. Cette idée folle, ça les a fait grimper au plafond, et j'ai dit que à la demande folle des transsexuels, les médecins avaient donné une réponse folle. Parce que ils ont fait cette transformation neurochirurgicale dont la seule raison d'exister est qu'un certain nombre de patients vont mieux après qu'avant. Ça, c'est indiscutable. Mais il faut, à mon avis, garder présent à l'esprit qu'on fait quelque chose qui n'est pas anodin, qu'on fait quelque chose d'énorme, sur quoi on doit réfléchir. Et ils ne supportent pas du tout qu'on le dise. Je suppose que je détruis l'illusion, que je casse le rêve, et que c'est pour ça qu'ils m'en veulent. Ou bien alors, c'est mes phéromones, c'est je ne sais pas quoi, quelque chose qui fait qu'ils me haïssent autant qu'il est possible d'haïr. Qu'est-ce que le phénomène transsexuel? L'expression, on ne peut pas me la contester, c'est celle d'Harry Benjamin, qui parle de transsexuel phénomène. Je dis que c'est un drame existentiel et je trouve ce qui est écrit dans les classifications internationales très insuffisant. On parle de malaise à vivre dans son sexe. Moi, je vois des gens qui préfèrent crever que de continuer à vivre dans la peau d'un homme ou dans la peau d'une femme. C'est pour ça que je trouve que dire drame existentiel, c'est vraiment important. Bon, alors, il y a une nuée de gens qui vont avoir du malaise, mais les transsexuels, ceux que nous opérons, ceux pour lesquels nous pensons qu'il n'y a rien d'autre à faire, ce sont des gens qui ne peuvent pas vivre dans la peau et dans la position d'un homme s'ils sont un homme biologique, d'une femme s'ils sont une femme biologique. L'étiologie, elle demeure mystérieuse. Une fois devant vous, Pierre-Henri, j'ai dit c'est une énigme et vous avez sursauté en disant non, c'est pas une énigme, vous n'aviez pas l'air d'accord avec cette formule. Bien sûr, après des années, ça serait quand même malheureux qu'on n'ait pas une hypothèse sur cette étiologie. Mais avoir une hypothèse de travail, c'est autre chose qu'avoir un acte de foi. Et je vois que les militants, les médecins aussi, sont divisés en deux groupes. Il y a des médecins qui pensent que quelque chose d'aussi grave, ça ne peut en dernière analyse être que d'origine biologique. Et ils vont dans le sens de ce que pensent un certain nombre de patients. Quand nous avons écrit avec Bernard Cordier l'article de l'encyclopédie médico-chirurgicale, il me poussait à développer ce qu'il appelait l'hypothèse psychogénétique et je freinais des cas de fer. Parce que ça ne me convenait pas, ce mot de psychogénétique, parce que j'aimais beaucoup Stoller, je trouve qu'il a été un pionnier qui m'a appris énormément de choses et qui surtout il m'a appris à respecter le patient, mais son hypothèse ne paraissait pas tenir la route, où il considère que le seul transsexuel vrai, comme il disait, c'est un garçon, qui a été élevé dans une symbiose extraordinaire, extraordinairement étroite, extraordinairement bienheureuse par sa mère, et qui s'est identifié à sa mère plus que tous les garçons qui s'identifient à leur mère, qui ne peut pas se désidentifier de cette mère. Donc je ne pouvais pas soutenir cette hypothèse parce qu'en fait on en voit très rarement dans ma clinique, on en voit quelques-uns quand on voit des enfants, quand on fait l'anamnèse des adultes c'est encore plus rare, plus exceptionnel, donc ce n'est pas une hypothèse suffisante. Mais ce qui m'a aidé à construire une hypothèse qui aujourd'hui, je pense, satisferait davantage Bernard Cordier, c'est d'avoir, et je crois que je suis la seule en France, qui ait travaillé à la fois avec des enfants et des adultes. Les gens travaillent soit avec des enfants et des adolescents, c'est aussi mon cas, soit avec des adolescents et des adultes, mais rarement à la fois avec des enfants, des adolescents et des adultes. Les enfants, on les voit à un âge très précoce, on les voit avec leurs parents, et on fait l'expérience, quand on est devant un enfant qui refuse son sexe d'assignation, qui ne dit pas, parce que l'enfant ne dit pas « je suis une fille », dit « je voudrais être une fille, en grandissant je deviendrai une fille », alors que l'adolescent dira « je suis » plus souvent, presque toujours, et l'adulte toujours dira « je suis une femme », alors qu'il est un homme biologique. Quand on travaille avec les enfants et leur famille, on voit que ce qui s'est passé, c'est un enfant qui a vécu, pour les raisons les plus diverses, qu'on ne peut pas réduire à une cause, comme l'a fait Stoller, un malaise dans ses relations avec les gens de son environnement. Généralement, les gens les plus proches, c'est les parents, mais il y a un excès d'enfants adoptés parmi les enfants qui refusent leur sexe d'assignation, donc on ne sait pas ce qui s'est passé dans les premiers mois de la vie, et ça peut être une autre personne que les parents, c'est souvent il y a une grand-mère qui a été très pernicieuse, ou une sœur, ou une bonne, il y a quelqu'un de l'entourage qui a joué un très grand rôle dans la création du malaise que l'enfant avait dans les interactions avec son environnement, et il s'est construit l'idée que si seulement il appartenait à l'autre sexe, tout irait mieux. Et il commence à agir cette idée, plus que de la formuler en mots, je ne crois pas qu'il se la formule en mots, il la vit, il l'agit. Et plus il l'agit, plus cette conviction se consolide, et plus tard on voit l'enfant, plus on a quelque chose qu'il est impossible de mobiliser, alors que chez l'enfant jeune, si on travaille avec l'enfant et avec les parents, on arrive à mobiliser la situation. J'ai vu ça sur quelques dizaines d'enfants. Kenneth Zucker à Toronto en a vu des centaines. Il est arrivé à la même formulation, ce qui m'a beaucoup conforté. Mais il est pratiquement le seul, parce qu'il y a quelqu'un qui a aussi travaillé avec les enfants à Amsterdam, qui est Peggy Cogan-Kentnis. Eh bien, il n'y a rien à faire. On ne peut pas changer, c'est biologique, on ne peut pas changer. Elle entre beaucoup moins dans notre compréhension, qui n'est pas de parler de psychogénèse, mais qui est de parler, Kenneth Zucker parle volontiers de défauts d'identification, de défauts dans la relation d'attachement, etc. Je prends ça sous le terme plus global d'interaction. Je crois beaucoup à l'importance des interactions précoces, et je crois aussi que ce qui s'est passé dans les interactions précoces, il y a beaucoup de choses qu'on n'arrive pas à mobiliser, que ce soit dans le domaine de la construction de l'identité sexuée ou dans d'autres domaines. De sorte qu'aujourd'hui, j'irai beaucoup plus si nous réécrivons l'article de l'encyclopédie médico-chirurgicale dans le sens de développer ce que je présente comme une hypothèse, encore une fois, et pas un acte de foi. Alors que nous rencontrons des médecins qui ont véritablement une attitude d'acte de foi. Il y a un homme dont je... C'est pathognomonique, je n'arrive pas à retenir son nom. Et parce que je l'ai entendu aux États-Unis expliquer que quand un enfant donnait signe, un petit garçon par exemple, donnait signe de féminité, mais il faut absolument le laisser s'exprimer, c'est biologique, on va le martyriser si on ne le laisse pas s'exprimer, si on fait quoi que ce soit. Et j'étais sidéré, j'ai levé le doigt, j'ai dit mais Kenneth Zucker, il a fait celui qui ne m'entendait pas, et Kenneth m'a dit, j'ai parlé avec lui, pour lui tout est biologique, j'ai dit mais venez voir dans ma clinique, je vous montrerai des cas, ah j'ai pas le temps, et bon, et bien, c'est un acte de foi, et aux États-Unis il y a toute une école qui devant un enfant qui donne des signes de conduite contraire à son genre, recommande d'aborder, etc., etc. Alors, je ne peux pas avoir cette position parce que je crois que l'enfant qui va vers le transsexualisme va devant un grand malheur. Il va souffrir, même si on le perd, bon, présenter l'opération comme aussi banale qu'un piercing ou un tatouage, comme l'a écrit Pat Califia, elle demande, alors elle est transgenre. Transgenre, c'est un éventail très large de gens qui contestent le genre, qui veulent dépasser le genre, qui veulent supprimer le genre, qui veulent modifier le genre. Mais de toute façon, ils ne sont pas tous d'accord sur ce qu'ils demandent et sur la manière de l'obtenir. Alors Pat, elle dit, il dit qu'on doit rendre l'opération aussi abordable qu'un tatouage ou un piercing. Ben écoutez, c'est pas possible. Couper la verge, enlever les testicules, fabriquer un néo-vagin, c'est absolument pas anodin. On ne peut pas présenter ça comme anodin. Et quand on vous présente des endroits ailleurs qu'en France où on ferait, paraît-il, des choses merveilleuses, aujourd'hui encore, et Simone en a été le témoin, j'ai une conversation avec un chirurgien qui en France opère des patients et qui dit, mais c'est pas vrai quand ils disent qu'il n'y a pas de complications pour se opérer en Belgique, chez Monstre ou en Thaïlande. Simplement, les complications, elles viennent plus souvent chez nous que chez eux, se faire opérer, réopérer. Mais bon, et je viens de tomber sur un article très intéressant d'une étude importante qui a été faite en Suède qui s'appelle Long Term Follow-up of Transsexual Persons Undergoing Sex Reassignment Surgery Cohort Study in Sweden. Il compare un échantillon important, mais uniquement de transsexuels masculins vers féminins, un groupe témoin de Suédois. Il y a une morbidité plus grande, une mortalité plus précoce, et toutes sortes de complications. Ça n'est absolument pas anodin, qu'on ne nous raconte pas que c'est anodin. L'autre demande des transgenres, ça peut être qu'on accorde le changement d'identité sans intervention chirurgicale. Alors là, moi, je trouve ça l'idée intéressante, parce que si quelqu'un veut s'habiller, bon, un homme veut s'habiller en femme, c'est égal, qu'on fait s'il veut s'habiller en femme. J'aimerais autant qu'il s'habille en femme que de se faire, je ne sais pas, castratrice, ça me bouleverse qu'un homme se fasse enlever la verge, mais ça ne me bouleverse pas autant que mes collègues hommes devant un patient transsexuel pour qui ça réveille une angoisse de castration vraiment très grande. Il y a une différence dans la position d'une femme en face de ça et d'un homme. Et en face d'une femme qui veut se faire enlever les seins, je n'ai pas une angoisse de castration, j'ai une consternation. Parce que pour moi, le sein, c'est un organe merveilleux avec lequel on peut donner du lait à ses bébés. Et c'est une source de jouissance érotique. Et j'ai ressenti dans ces femmes une consternation. Et j'ai toujours recherché quelle avait été leur relation avec le sein maternel. Et la relation avec le sein maternel n'a jamais été bonne. On n'en viendrait pas à vouloir se faire enlever les seins si elle avait été bonne. Donc, ça ne me gênerait pas. Mais là où il y a une conséquence, c'est qu'évidemment, cette personne qui vit, qui se fait passer pour et qui vit comme une femme et qui a gardé sa verge et ses testicules est capable de procréer dans son sexe d'origine. Et là, alors je dois dire que là, ben ça me gêne et je mesure que je n'appartiens pas à la communauté LGBTIQ, lesbienne, gay, intersexe, transsexuelle, bisexuelle et queer, parce que eux ils se réjouissent devant l'histoire de Thomas Beatty. Alors Thomas Beatty, c'est une femme qui vivait à Hawaï. Elle a même eu un prix de beauté qu'elle m'a dit qu'elle avait été Miss Hawaï. J'ai cherché dans la liste des Miss Hawaï, mais peut-être que ce n'était pas sous le nom qu'elle a maintenant, j'en sais rien. En tout cas, elle a eu un prix de beauté à Hawaï, et puis elle s'est fait transformer en homme. Elle s'est fait transformer en homme, on lui a enlevé les seins, on lui a donné des hormones. Et comme dit dans un petit livret destiné aux parents dont je m'occupe, c'est-à-dire au couple dont je m'occupe, un couple dont le père est un homme d'origine transsexuelle, avec les hormones, on peut faire pousser le sexe, on peut faire pousser la barbe, mais pas le zizi. Alors, elle n'a pas de zizi, ou elle a une phalloplastie peut-être, il a une phalloplastie peut-être, il a une barbe, mais il ne s'est pas fait enlever les ovaires ni l'utérus. Et il a épousé une femme qui a dû subir une hystérectomie pour raison médicale. Et il a voulu avoir des enfants, au moins, pour moitié, biologique, avec ses ovaires, ses ovules, et une insémination artificielle avec donneur. Il a arrêté les hormones mâles. Les endocrinos disent que les hormones mâles prises pendant un temps long stérilisent, ça ne l'avait pas stérilisé très rapidement. Il a eu un premier enfant, puis un deuxième, puis un troisième. Il est à l'état civil, le père des enfants, puisque maintenant son identité est masculine, et elle est génitrice. Et moi, je dois dire que c'est quelque chose, ça passe pas. Ça passe pas. Alors que les LGBTIQ, mais ils trouvent ça merveilleux. Ils trouvent ça merveilleux. Alors, ils veulent absolument détruire toute différence entre les hommes et les femmes. Les différences dites de genre, c'est-à-dire culturelles, les différences arbitraires assignées par la culture, le rôle arbitraire assigné par la culture aux hommes et aux femmes, on peut les transformer. Mais il me semble qu'il y a une différence biologique irradicable et devant la procréation, c'est évident. Ça fait 12 ans que je travaille dans un CECOS, j'ai encore jamais vu qu'on puisse utiliser un spermatozoïde à la place d'un ovaire, d'un ovule ou le contraire. Il y a dans la procréation est bisexuelle, on peut cloner, mais on ne crée pas un être nouveau, la création d'un être nouveau. Alors, quand on parle comme ça, on fait figure de dinosaures. Personne qui est tellement retardée, comme on m'a dit, que même carbone 14, on ne pourrait pas dater mon retard. Donc, cette solution d'accorder le changement d'identité sans intervention chirurgicale, je ne serais pas contre cette transformation redoutable, mais je m'interroge sur quelles mesures on prendra pour ne pas aboutir à un père légal qui est la génitrice, parce que ça ne va pas. Bon, de mon point de vue, ça ne va pas. Alors, on peut dire que les transsexuels sont des transgenres, puisque effectivement, ils contestent leur genre d'origine. Mais ils sont des transgenres particuliers. Ils demandent une marque corporelle du changement de genre. Et ils appellent ça un changement de sexe, parce qu'on s'attaque à l'acte sexuel, à l'organe sexuel. C'est donc, mon livre est seulement consacré aux transsexuels, c'est-à-dire à ceux qui viennent demander une transformation hormonochirurgicale, et ne parle pas de tous les transgenres dont je n'ai pas d'expérience clinique. Et moi, je ne veux parler que de ce que je connais concrètement. Je ne veux construire une théorie que sur la base d'une expérience clinique. Comme Pierre-Henri, je suis philosophe d'origine, mais lui, il est resté vraiment philosophe de métier. Moi, je suis vraiment devenu autre chose. Mes études de philosophie m'ont marqué, mais je ne veux pas parler uniquement sur des idées, des mots et des théories. J'ai besoin du contact clinique et de la réalité clinique pour élaborer une théorie, et je n'ai pas de théorie des transgenres que je ne reçois pas en consultation, qui ne viennent rien me demander. Et bon, certains vont, je vous l'ai dit, jusqu'à demander de la disparition de toute différence entre les deux sexes, que la mention disparaisse à l'état civil. Il y a un juriste en 1995, un symposium sur droit et transsexualisme auquel j'ai assisté à Amsterdam, qui a dit tout compte fait aujourd'hui, les femmes, les hommes, il n'y a plus de différence, les femmes peuvent aller à l'armée, elles peuvent piloter, enfin, les uns et les autres peuvent tout faire. C'est uniquement pour les statistiques. Effectivement, parce que c'est pas facile de faire une statistique de cancer de la prostate chez une femme. Enfin, bon, c'est pas sérieux comme argument, c'est pas valable. Je crois qu'il y a un fondement à la distinction entre hommes et femmes. Et puis il y a une réalité, c'est que la majorité des êtres humains sont d'accord avec cette différence, se réclament comme hommes et comme femmes. Alors, j'ai entendu une jeune philosophe, Elsa Dorlin, dire il existe des intersexes, donc la distinction entre les sexes ne peut pas tenir. Alors, il existe 1,728 cas de disorder of sex development, d'après la statistique de Fausto Sterling, mais il y a plus de 98% de gens qui se sentent vraiment hommes ou vraiment femmes. Il faut gommer cette différence. Henri Aclan écrit l'utérus artificiel. Alors, il dit, aujourd'hui, on peut développer les 6 premiers jours en dehors du corps de la femme, quand on fait une FIV, fécondation in vitro. On peut, à partir de la 22e ou 24e semaine du développement, élever un enfant en couveuse artificielle, il n'y a plus qu'à réunir les deux bouts. Alors là, j'entends des biologistes de la reproduction, les uns dire oui, c'est quasiment pour demain, les autres dire non, hein, c'est quand même dans un ventre de femme que l'enfant se développera le mieux. Et première idée. Deuxième idée d'Atlan, alors là je ne comprends pas, Atlan dit je suis biologiste et philosophe. Et il dit une absurdité. Il dit l'utérus artificiel fera enfin disparaître l'inégalité entre les hommes et les femmes. Mais il confond ce souci de faire disparaître les différences qui sont de nature et qu'on ne peut pas faire disparaître, et les droits, l'égalité qui sont de l'ordre du droit qu'on accorde à l'un ou l'autre. Il y a des droits qui sont communs aux hommes ou aux femmes, mais il y a peut-être des tâches, des droits, des devoirs qu'on assigne plutôt aux hommes, plutôt aux femmes biologiques. Et peut-on faire disparaître ça? Alors évidemment, devant l'utérus artificiel, mais la femme, ils auront juste à déposer l'un le spermatozoïde, l'autre l'ovule. C'est quand même une différence, c'est quand même une inégalité. Et puis après, tout se passera en dehors d'eux, il n'y aura plus ni père ni mère, il n'y aura plus que des parents. Alors Victor Hugo, l'amour maternel, peint merveilleux qu'un Dieu partage et multiplie, il va te habiller. Il n'y a plus de père, il n'y a plus de mère, toute la littérature, c'est incroyable, mais ils sont à l'aise là-dedans. La communauté LGBTIQ, elle est à l'aise là-dedans. Et on est dans une situation où c'est très difficile d'avoir des échanges parce qu'on est un ennemi. On est un ennemi de leur liberté, et je dirais que derrière cette idée du choix du sexe-genre, parce que on veut dire que le genre est social et psychologique et le sexe biologique, mais finalement souvent on emploie un mot pour l'autre. L'état civil parle de sexe alors qu'en fait il parle de genre, mais bon, on est dans une situation où on ne peut pas se comprendre, absolument pas se comprendre. Les différents transgenres, d'ailleurs, ont des conflits entre eux. Ils sont loin de... Bon, ils font alliance dans quelques manifestations, mais ils ne ratent aucune occasion de se lancer des pavés. Alors, il y a quelqu'un qui a... s'est fait un grand nom, Judith Butler, et qui a écrit « Trouble in Gender », où elle disait que la différence entre les sexes a été inventée par la société comme support des différences de genre, pour mieux exercer des rapports de pouvoir. C'est quand même une énormité. Si on a créé les genres, c'est parce qu'il y avait des sexes. On n'a pas créé les sexes parce qu'il y avait des genres. Ça me paraît inconcevable. Mais, en 2004, elle écrit « Undoing Gender » et elle écrit quelque chose qui est d'un autre registre, et là, on peut essayer de réfléchir. Il faut supprimer dans le genre ce qui rend la vie invivable à un certain nombre de personnes. Alors là, c'est une proposition, on peut discuter, parler ensemble. Nous, quand nous sommes confrontés à des militants, nous sommes confrontés à des militants qui défilent toute leur vie avec une pancarte transidentité. Les patients que je vois, ils disent, moi je veux maintenant un homme incognito me fondre dans la masse, une femme incognito, je veux être un homme comme les autres, une femme comme les autres. Ils ont d'ailleurs un discours qui implique une position différente à l'égard du déni de la réalité biologique. Il y a nécessairement un défi lancé à la réalité biologique dans l'idée de la transformation hormonochirurgicale, mais ça va au-delà du défi, c'est le déni. On dénie que ce soit vraiment impossible. Alors, au minimum, ceux qui ont le moins de déni disent « Je sais que je ne suis pas un homme comme un homme né homme, mais je peux vivre en homme, je suis heureux et ça me satisfait. » Au degré suivant, ils disent « Je suis maintenant un homme comme tous les autres. » Et même, j'ai toujours été un homme comme tous les autres. Je suis un homme. Je vous parlerai dans un instant de la suspension de la puberté et je reviendrai sur ce type de déni. Il y en a d'autres qui disent autre chose. Par exemple, une femme transformée en homme me dit « J'ai une phalloplastie qui est très peu sensible, je pisse pas avec, elle n'est pas érectible, je ne peux rien en faire sur le plan sexuel avec, mais quand je me regarde dans la glace, je me dis que c'est la preuve que je dis vrai quand je dis que je suis un homme. Traduit en autre langage, ce faux pénis, c'est la preuve que je suis un vrai homme. Ben, alors là, on est dans quelque chose qui est un degré supplémentaire du déni, peut-être qu'on peut dire que c'est un délire conquisté, parce que par ailleurs, la personne qui m'a dit ça est une personne avec qui j'ai eu un échange intellectuel du plus haut niveau et de la plus haute qualité. Et j'ai eu des hommes transformés en femmes qui me disent maintenant je suis tranquille, parce que si on dit que je ne suis pas une femme, je peux leur montrer mon sexe. Bon, alors j'ai encore un niveau de déni supplémentaire, tel qu'il apparaît dans, par exemple, l'autobiographie de Simmons Down, je oublie toujours son nom, l'anglais. C'est un homme qui s'est fait transformer en femme, et il dit, mon gynécologue à Harley Street, c'est un anglais, Harley Street c'est la grande rue des médecins à Londres, a senti maintenant les ovaires et l'utérus qui avaient poussé en moi, et je vais bientôt pouvoir avoir un enfant. Alors, c'est un écrivain, il écrit son autobiographie, c'est un écrivain. Est-ce que c'est une fantaisie littéraire? Ben, j'ai eu un patient qui m'a dit, ma gynécologue a senti les ovaires qui étaient poussés. Alors, on a encore un degré de plus. Vous voyez que ce n'est pas simple du tout de définir sur le plan nosologique ce que c'est que le transsexualisme. Et moi, ça a cessé de m'intéresser. Ce qui m'intéresse, c'est de voir comment ils fonctionnent. Ils ne fonctionnent pas tous de la même manière. Ils ont certains points communs, dont un minimum de déni de la réalité biologique. Ils ont aussi un refus de considérer que c'est une pathologie. Alors... Il y a des discussions à l'heure actuelle à propos du remaniement des classifications internationales. Ça ne peut pas être un trouble mental. C'est pas un trouble mental, c'est même pas un trouble. Alors si c'est même pas un trouble, pourquoi la sécurité sociale paierait-elle? Judith Butler le fait observer que s'ils veulent être remboursés, il faut quand même qu'ils acceptent d'être quelque part dans une nomenclature des assurances ou de la sécurité sociale. Et c'est pas un trouble, il faut quand même dire que la première fois qu'on voit devant soi un homme normalement constitué, je vais vous raconter un cas vrai, il avait de la barbe et les cheveux coupés courts, et il m'a dit, voyez, c'est évident, je suis une femme. Alors il faut quand même se dire, il y a l'un de nous deux qui dit quelque chose qui ne va pas, et généralement on a quand même envie de choisir sa personne propre pour dire que c'est l'autre qui ne va pas. Mais il y a quelque chose qui ne va pas quand un homme normalement constitué ne peut pas s'assumer comme homme. Il y a quelque chose, un problème. Et dans l'exposé que j'ai fait à une journée du centre collaborateur de l'OMS en France, j'ai dit que je comprenais la peur de la stigmatisation, parce que les étiquettes médicales les stigmatisent, mais toute étiquette médicale stigmatise. L'ALD, l'affection de longue durée, ils la volent pour avoir les soins remboursés à 100%. Eh bien, c'est stigmatisant. J'en ai fait l'expérience, j'ai eu une ALD pour une maladie de longue durée, mais relativement bénigne, qui ne menaçait pas du tout ma vie. Il y a des assurances que j'ai laissé pouvoir contracter, parce que je devais certifier que je n'avais jamais eu de remboursement à 100% d'ALD. Donc, tout est stigmatisant. Et ce qui est stigmatisant, ce n'est pas le mot, c'est la chose. C'est stigmatisant d'avoir une emmerde de cette taille-là, de ne pas pouvoir accepter son sexe biologique. Et devant une personne comme ça, la première fois qu'on la voit, les militants ne comprennent pas que ça n'aille pas de soi d'accepter ça. Et les parents, ça n'a pas de soi d'accepter la déclaration de leur enfant qui veut se faire opérer. Alors, les uns ont une réprobation et un rejet. Ce n'est pas la bonne solution. Il y en a d'autres qui ont une compassion totale et les gens que j'appelle poussent au crime. Fais-toi opérer le plus vite possible. Bon, ça ne va pas non plus. Ils n'acceptent pas l'idée que on est quand même le droit de s'interroger. Ils ne veulent surtout pas qu'on s'interroge et ils ne veulent pas s'interroger. Et ils ont beaucoup de soucis parce que les caractères sexuels secondaires sont difficiles à éradiquer. D'où la proposition faite de suspendre la puberté à 12 ans. C'est une proposition qui nous vient d'Amsterdam. À 12 ans, on donne des analogues de la GnRH et le développement de l'os est suspendu, mais à 16 ans, on donne des hormones du sexe contraire, le développement de l'os reprend, ils nous disent que tout se passe très bien, et 2 ans plus tard, on va faire les interventions chirurgicales. J'ai interrogé des collègues spécialistes en physiologie de l'adolescence, parce que je ne suis pas compétente, et ils m'ont dit qu'ils ont assisté à des cas où on a suspendu la puberté pour d'autres raisons que le transsexualisme. C'est pas si simple que ça, et que c'est pas du tout évident ce qui se passe dans la récupération de l'os. On sait pas quelle action ça a sur le cerveau, on sait pas quelle action ça a sur le développement général. On n'a aucun recul de longue distance, puisqu'il n'y a guère qu'une dizaine d'années que ces transformations ont commencé. Je suis allé à Londres assister à 2 journées, l'une organisée par la Royal Society of Medicine, qui présentait le point de vue pour et contre la suspension de la puberté. Jusque-là, elle était interdite au Royaume-Uni. Et puis, une contre-manifestation organisée par Richard Green en faveur de la suspension de la puberté. Alors là, j'ai vu le show à l'américaine, sur l'estrade. Il y avait un jeune homme, mais c'était une fille transformée en homme. Une jeune fille, mais c'était un garçon transformé en jeune fille, la mère de chacune de ces personnes, et les médecins qui les avaient soignés. Et ce qui m'a stupéfait, c'est de voir le garçon dire « I am a boy, I always was a boy », et le médecin dire « He was always a boy ». Alors, non, il était un garçon. Il était devenu un garçon à l'état civil, il s'était fait transformer, mais il était une fille. Eh bien, la fille, elle était un garçon, elle était devenue une fille. Et dire « he was always a boy », c'est un déni de la réalité biologique auquel, personnellement, je ne peux pas m'associer. Et ça, ça fait de moi un ennemi. Et une des personnes qui est partisane de cette affaire-là m'a dit « Ah, oh, vous êtes là, étonné que je sois là. » Mais moi, je suis là pour m'instruire. Mais c'était écrit à l'avance sur mon front que je ne pourrais pas être... je ne pourrais pas dire, mais il faut réfléchir quand même. Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait? Alors, la dernière réflexion, c'est que... on pratique des interventions. Les équipes dites... les équipes publiques les pratiques en demandant un temps d'observation avec beaucoup de conscience professionnelle, elles sont traînées dans la boue par les militants. Ils osent dire que c'est pour faire leur beurre, leur profit. Alors qu'en service public, il n'y a pas de dépassement d'honoraires, il n'y a pas de rien du tout. Au contraire, Stoller admirait beaucoup que nous le fassions en France en service public et pas dans le privé, parce qu'il assistait à des affaires tout à fait mercantiles aux États-Unis. J'ajouterais qu'il faut continuer à chercher d'autres traitements. On trouvera peut-être autre chose. Pourquoi on ne trouverait pas je ne sais quelle anti-hormone, je ne sais quelle... il faut chercher sur le plan psychologique aussi ce qu'on peut faire. Déjà, je vois qu'avec les enfants, on peut faire quelque chose, qu'on peut déjà beaucoup moins faire avec les adolescents et qu'on ne peut plus du tout faire avec les adultes. Et puis, il faut s'interroger sur le problème des limites. Parce que nous avons admis qu'on pouvait enlever le membre viril, est-ce que nous allons admettre qu'on puisse enlever un bras, une jambe, ce qu'ils appellent l'apotemnophilie? Il y a des gens qui viennent et qui disent « ce bras, c'est un corps étranger pour moi, je ne peux pas vivre avec ce bras, il faut qu'on l'enlève ». Il y a des chirurgiens pour le faire. Alors je me dis « qu'est-ce que nous avons fait ?» Le membre viril aussi, c'est précieux. Et ne plus l'avoir, ça vous ouvre un statut de femme, ce qui n'était peut-être pas fameux, mais... ces hommes-là le trouvaient fameux, pas Freud, oh là là, ils en avaient peur, mais enlever un bras, c'est, ça ouvre un statut d'infirme. Qu'est-ce qu'ils veulent, un statut d'handicapé? Je ne sais pas. Je suis absolument glacé devant ce problème. Les gens disent oui, mais l'apotémophilie et le transsexualisme, c'est pas la même chose. Je ne sais pas. On a ouvert les vannes, jusqu'où irons-nous? Voilà ce que je voulais dire pour introduire la lecture de mon livre.
Merci. Merci beaucoup.
Bon, place à la discussion.
Alors, merci beaucoup de m'avoir invité à parler de votre livre. En fait, je ne vais pas parler longtemps, je vais juste essayer de reprendre des points qui vous permettront de rebondir.
Merci.
Qui vous permettront de rebondir. Votre livre sort en même temps, je le signale, que le livre de François Cironi qui s'appelle... je perds mes post-it parce que là, sinon, comme si je perdais des morceaux d'appareil psychique. Psychologie des transsexuels et des transgenres, qui est vraiment un livre, je crois qu'on... manifestement, Odile Jacob a fait exprès de faire sortir les deux livres en même temps. Donc je le signale parce que c'est un livre qui attaque très clairement Colette Chilan, tout en étant bien obligé aussi de reconnaître un certain nombre d'apports, d'acquis. Et vous verrez, c'est un truc très intéressant parce que beaucoup de choses sur le plan clinique se recoupent, c'est-à-dire que les gens qui ont effectivement une expérience un peu longue, un peu assidue, de ce que c'est que les situations des transsexuels, mais aussi des transgenres, retrouvent les mêmes points. Mais ce qui est assez vertigineux, c'est que le style d'interprétation, le rapport à la psychanalyse, la manière de contextualiser socialement, historiquement, éthiquement, les mêmes objets, les mêmes points cliniques, les mêmes qu'on peut retrouver, aboutissent à des positions diamétralement opposées. Et ça, c'est très frappant parce qu'il y a quand même suffisamment de points d'accord sur le fond, sur la description des trajectoires de vie, pour qu'on sente bien la sensibilité de la description clinique au contexte, et notamment au contexte politique. Elle s'intéresse beaucoup au fait qu'elle a beaucoup travaillé avec des gens qui viennent de différents pays, etc. Alors c'est pour ça que je trouve que le livre de Colette Chilan, qui est un peu qui n'est pas une réédition, j'insiste là-dessus, ça n'est pas une pure et simple réédition de votre précédent livre. C'est vraiment un livre qui est très retravaillé, où il y a beaucoup de formules qui ont été modifiées, qui effectivement sont nettement moins abruptes que celles qu'avait sélectionné ACT UP pour s'en prendre à vous, et qui justifie très bien la position qui a été la vôtre, qui est celle d'être à la fois, de faire de la psychologie médicale, si je puis dire, mais avec une confiance très grande dans un certain type de psychanalyse qui est une psychanalyse très psychologique. C'est-à-dire qu'il y a un injointement entre la psychologie médicale et la psychanalyse qui chez vous est très très fort et qui me faisait penser d'ailleurs à la tradition de Chrysler, de gens comme ça qui ont travaillé avec les enfants intersexuels il y a très longtemps. Alors moi, ce qui m'a beaucoup frappé aussi, c'est que ce livre, vous dites, vous mettez de côté les transgenres. Alors moi, j'ai commencé à m'intéresser à ces questions il y a 20 ans et effectivement en 1990 vous observez une transition extrêmement forte. C'est que jusqu'en 1990, il n'y avait que des gens qui voulaient passer incognito et qui n'auraient pour rien au monde accepté d'être transsexuel et qui, pour qui tous les thèmes contemporains comme ceux de la transidentité auraient été considérés comme horribles et comme une marque d'échec. Or, les gens que j'ai vus, qui appartiennent à la génération suivante, j'ai très très peu vu de gens qui veulent être que des hommes incognito, que des femmes incognito. J'ai essentiellement vu des gens beaucoup plus jeunes pour qui le point d'accroche du discours, c'est le transgenre, qui effectivement sont beaucoup moins, demandent beaucoup moins des transformations radicales, militent, comme vous l'avez signalé, pour le fait qu'on puisse changer son état civil sans nécessairement être opéré, etc., etc. Et donc, une des graves questions qui se pose, c'est la question de savoir si on parle des mêmes personnes. Si les gens avec lesquels a interagi Françoise Cironi à Paris 8, qui sont quand même, on peut dire que ce sont des militants, mais c'est peut-être aussi lié au fait que la nouvelle position des transgenres est tellement liée à un discours, tellement liée à une théorisation, tellement liée à un militantisme politique, qu'il ne peut pas exister en dehors d'un certain militantisme, un peu comme Agnès Oppenheimer disait. C'est pas simplement le transsexualisme qui est toujours une théorie, c'est que maintenant cette théorie, c'est le transgénérisme, si j'ose dire, est substantiellement la matière même de ce à quoi on a affaire, et que c'est vraiment un discours avec lequel il faut apprendre à faire. C'est ça qui m'a paru très extrêmement frappant. On est dans une transition historique, et effectivement, je ne suis pas sûr que la position du transgenre soit une position qui soit, on le voit déjà, elle est très conflictuelle, soit une position qui soit appelée à durer infiniment. Déjà, par exemple, les intersexes ont défait en Angleterre et dans plein d'autres pays les liens autrefois organiques qu'ils avaient avec le mouvement transgenre, parce que déjà toutes sortes de clivages apparaissent dans, autour de ces enjeux. Donc moi, c'est ça le point moi, qui me paraît très important, c'est que le livre de Colette Chilan dit avec beaucoup, prend avec acte, avec beaucoup de sérénité, de quelque chose qui a été une réalité clinique extrêmement stable et qui tout d'un coup est en train de se transformer avec une autre génération, avec d'autres cliniciens. C'est pour ça que Françoise Cironi, c'est vraiment assez intéressant, des cliniciens qui sont eux-mêmes souvent des trans d'ailleurs, hein, c'est très important de noter ce point. Ils ne se laissent pas soigner par des gens qui n'ont pas une connaissance intime et subjective du type d'expérience qu'ils ont, ce qui est assez singulier comme démarche, qui suppose un environnement politique, associatif, des repères politiques qui ne sont pas nécessairement ceux du service public à la française ou de l'indisponibilité de l'état civil. Hein. C'est aussi des choses qui sont très... On peut voir ça aux Pays-Bas, on peut voir ça dans certains états américains, mais pas partout. Donc ça, c'est un premier point. Est-ce que ce sont les mêmes ou pas? Parce qu'il faut aussi dire que le changement de sexe est devenu aussi un attracteur culturel. Quelque chose qui peut être exploité par toutes sortes de gens qui, effectivement, contrairement à ce qui a été raconté, ne sont pas du tout des psychotiques comme le président Schreiber qui veut changer de sexe sous une autre forme. Ça, c'est totalement faux. C'est par des gens qui ont des trajectoires de vie, souvent, et là, je crois que c'est très intéressant à noter, des gens qui viennent soit d'Algérie sans papier, soit des gens qui ont deux langues, soit des gens qui... Et ça c'est un point, je crois, assez important à noter, notamment à Paris, où on a tout un brassage, et la population auquel fait allusion Françoise Cironi, elle existe, tout à fait, on la voit. Ce brassage-là est très important. Est-ce que ce sont d'autres gens, ou est-ce que c'est le changement de sexe qui est devenu un attracteur, un marqueur culturel qui est utilisé par des gens qui n'ont strictement rien à voir avec ce pourquoi la théorie psychiatrique puis psychologique du transsexualisme a été élaborée. Donc ça, c'est un point d'histoire que je crois vachement important pour cerner les enjeux. Il y a un autre point qui me paraît très important et qui donne son contexte à tout ça et que vous mettez, je crois, en évidence de manière très différente des autres partenaires du débat. Parce qu'il y a quand même un débat, hein, même si c'est un débat hyper violent. Quand les gens se citent, même si c'est pour à tort et à travers, mais il y a quand même, c'est assez intéressant à lire. C'est l'idée du moi qu'on se fait. C'est-à-dire que moi, je ne suis pas du tout intimidé par l'idée de transgénérisme et de transformation, parce que je crois que de toute façon, à partir du moment où on a construit au début du 19e siècle la notion d'individu, un individu, ça n'est ni homme ni femme. Voilà, ça c'est. Si vous faites reposer l'ensemble de la société, du droit, etc., dès John Stuart Mill, n'est-ce pas, vous avez obligatoirement l'affirmation de la liberté de l'individu et la revendication féministe, dès John Stuart. Et dès cette époque-là, vous avez aussi, chez Théophile Gautier, par exemple, là, une esthétique romantique de la transformation, de l'amour, de l'érotisme, du rapport au corps, du travestissement, du changement, dans le romantisme, c'est absolument manifeste, dont on pourrait très bien considérer que, bien loin d'être une sorte de modernité extraordinaire, le transgénérisme, est que l'accomplissement. C'est-à-dire qu'à partir du moment où vous jugez que vous avez... que le cœur des choses, c'est le moi individuel, qui est l'arbitre de ses propres contenus mentaux, qui sent ce qu'il sent, qui sent ce qu'il a envie de sentir, ou qui se met toujours en avant comme je, performatif, s'accomplissant, etc., vous accomplissez quelque chose qui est consubstantiel à la culture dans laquelle nous sommes. Et ça, je crois qu'au fond, le discours du genre, il n'a, c'est même pour ça, alors ça c'est un point de litige très fort avec les gens avec qui acceptent de parler avec moi, dans le milieu transgenre, c'est que moi je trouve ça absolument pas subversif. Je trouve ça totalement conservateur, parce qu'au fond, c'est une pensée du moi. C'est une pensée de l'individu, maître chez lui, décidant de l'être, dont ce qui se passe avec le transgénérisme et le transsexualisme ne sont que des figures historiques successives. Bon. Ça, j'aimerais bien entendre votre avis là-dessus, parce qu'au fond, le pari de faire de la psychanalyse avec ça, c'est que s'il y a bien un truc que la psychanalyse, qui est je dirais, son cœur vivant, c'est que les certitudes du moi, nous pouvons penser qu'elles sont produites comme des effets. C'est pas propre au transsexualisme du tout. C'est pour ça qu'il n'y a aucune espèce de psychanalyse spécifique du transsexualisme. Il y a la psychanalyse, et puis elle rencontre les transsexuels. et que les axiomatiques qu'il y a dans le transsexualisme et les certitudes qui sont attachées ne me semblent pas être d'une nature fondamentalement différente de celle qu'on rencontre ordinairement quand on met en question la façon dont quelqu'un est absolument persuadé que ce qu'il vit ou ce qu'il a, c'est ce qu'il devait vivre ou ce qu'il devait vivre de tout temps. Et là, le transsexualisme et le transgénérisme, ce sont des machines anti-psychanalytiques, mais c'est aussi des défis extraordinairement intéressants pour les psychanalystes. Enfin, si je puis dire, je ne sais pas si vous me reconnaîtriez cette qualité, moi, ce que j'ai appris comme psychanalyste, je l'ai appris essentiellement avec des transsexuels. Parce que le défi, le fait que nous n'avons pas le monopole du discours intéressant sur le sexe, nous n'avons pas, nous vivons dans la même culture que les autres, et la question de l'individu, ça nous taraude, de la liberté de l'individu et du moi, elle nous taraude tous absolument exactement comme eux. Ça, je trouve que c'est vraiment quelque chose que les transsexuels nous mettent devant, là, avec leurs revendications institutionnelles et juridiques. Et ça, ça m'amène à un point, je crois, très, très fort, c'est qu'on s'est souvent, on n'est pas d'accord sur l'usage du mot de psychose pour parler de ces choses. Je crois que ce qui est intéressant, c'est faire très attention. Moi, j'ai toujours cru qu'on pouvait parler de psychose sans vexer les gens, avec une naïveté extrême, puisqu'effectivement, on n'arrivera pas à faire en sorte que la notion de psychose, son sens soit tellement modifié qu'elle ne serve pas à pathologiser, psychiatriser les gens, mais simplement à indiquer un cadre de pratique, prendre certaines précautions avec les comprendrait pas avec d'autres, avec ses patients, etc. Bon, j'ai renoncé à croire ça, mais ce qui me paraît quand même vachement important, c'est que vous le dites partout dans votre livre. Ce qui est constant, c'est que quelqu'un est certain qu'il n'est pas que dans son corps, que ce corps-là qu'il vous montre, c'est pas lui. C'est pas tellement l'affirmation qu'il est un homme, une femme, ou autre chose que ce qu'il est ou qu'il est. Mais ce qui est certain, ce qui est sûr, ce qui est radical, c'est que le corps dans lequel il est, il y a quelque chose qui ne va radicalement pas avec lui. Et que c'est ensuite que, selon l'offre culturelle, qui est très variable avant le 19e siècle, après le 19e siècle. Ça, c'est pas la même chose d'être un homme avec une âme de femme et d'être une femme dans un corps d'homme. Ça, la césure culturelle radicale qu'on voit chez Krafft Ebing dans l'observation du médecin hongrois, c'est que cet homme-là, il est d'abord un homme avec une âme de femme, il découvre les hormones avec Steinhardt et il se décrit comme une femme dans un corps d'homme, parce qu'on peut agir sur le corps grâce aux hormones. C'est ça la mutation qui crée. Ça, c'est une césure fondamentale, comme la césure qui crée le transgénérisme. C'est très historique. Mais tous ces gens-là, ils ont en commun une indication, je trouve, mélancolique. C'est qu'exister comme ils existent leur est insupportable. Ça, on n'a pas le droit de dire que c'est effectivement quelque chose qui est simplement pathologique. C'est beaucoup plus compliqué que... On peut pathologiser ça, mais il faut leur garder quand même cette réserve. Donc ça, je trouve que c'est vraiment très important, parce que vous voyez, toute la notion de moi se noue autour de là-dedans, et tout votre travail, je crois, retourne sans cesse à ce point, hein, de l'insupportabilité d'exister comme on est. Et alors la question sur laquelle je termine est celle-ci. Très souvent, vous racontez l'impossibilité d'interpréter. C'est-à-dire qu'une interprétation absolument évidente, du genre vous portez le nom d'une personne morte du sexe opposé, vous le savez, votre mère vous l'a dit, vos parents, etc. Et vous ne voyez pas, en quelque sorte, vous ne faites pas la connexion. Il y a à la fois cette espèce de scandale, de réaction absolument scandalisée, dans beaucoup d'exemples que vous donnez à la mention de choses, qui est, si vous avez... peu c'est l'expérience de ce genre de patient, c'est pas du tout rare. Je dirais pas que c'est la moitié des cas, mais enfin, c'est quand même assez souvent le cas qu'il y ait des situations de ce genre. On voit très bien qu'il y a un enfant mort avant. C'est pas des trucs qu'on a inventés comme ça, un cas sur un million qu'on sort du chapeau pour faire peur aux adversaires. Non, c'est assez courant cliniquement. Alors, ce que je voudrais que vous puissiez nous éclairer là-dessus, c'est comment, à la fois, vous êtes très sensible à l'extrême difficulté de ce qui est une activité comme l'interprétation, et en même temps vous rappelez que contrairement à ce qu'on raconte, on peut psychanalyser jusqu'à un certain point, on peut prendre en charge comme psychanalyste, en tout cas, je ne sais pas si c'est psychanalysé, on peut avec certaines interventions celle, par exemple, que vous dites, que vous avez dans votre exposé très bien montré, là, la distinction entre illusion et réalité. Vous n'aurez pas un pénis fonctionnel. Comme on va dire à une. Oui, bien sûr, vous pouvez avoir des seins, vous pouvez avoir un. Mais ce que vous n'aurez pas, c'est l'expérience de la petite fille qui commence à avoir ses règles. Ça, vous ne l'aurez jamais. Ça vous manquera. Et ça vous manquera, et il faut que vous sachiez que ça vous manquera aussi dans des conjonctures de votre vie sexuelle, de votre vie amoureuse, où ça pourra être supposé comme acquis par une enfant adoptée qui ne saura rien, ou même par la personne avec qui vous couchez. Hein, que ce mode d'acquisition de la féminité, il est irremplaçable, on ne peut pas le protéger. Eh bien, néanmoins, on peut faire des choses par le biais de certaines interventions qui ne sont pas exactement des interprétations. Donc. Et j'aimerais que vous nous disiez un petit peu quelque chose de... Parce qu'au fond, c'est un défi à la psychanalyse, un défi radical. Hein, moi, je me semble qu'il y a quelquefois, c'est ou la psychanalyse ou le transsexualisme. Hein, on peut facilement construire des oppositions. Il y a des gens qui disent, c'est vraiment... qui s'en servent même comme une contre-épreuve hein, de la vérité des thèses de la psychanalyse, du transsexualisme, qui est un peu naïf quand même. Bon. Et là, sur ce point-là, je voudrais bien que vous nous disiez quelque chose. C'est quoi une interprétation, une intervention, une action analytique dans ce contexte? Alors, je le précise. Je vais peut-être me taire parce que j'ai trop raconté de choses, mais je ne suis pas tout à fait d'accord avec l'idée de déni psychologique. Parce que, pour une raison très simple, c'est que le déni, c'est un processus que je pense que vous désignez par là quelque chose d'intrapsychique. Or, ce que le discours trans permet de faire et de soutenir avec une certaine logique, c'est que justement, il offre un support de discours, des places d'où on peut se parler les uns aux autres, d'où on peut agir pratiquement, transformer son image, la négocier avec autrui, qui fait que la question du déni ou du clivage le plus profond ne paraît pas nécessairement mise en cause. C'est quelque chose, peut-être c'est un discours qui économise cette dimension intrapsychique. Et c'est peut-être parce que dehors, on est bien obligé de vivre dans des sociétés où les gens ont des sensibilités aussi vertigineusement différentes que celles que vous pouvez voir entre le livre de Colette Chinan et celui de François Cyruny, là dehors, dans le discours, on est obligé de vivre dans une société tellement... je dirais pas, c'est même pas conflictuel, il y a une dimension presque kaléidoscopique dans les sensibilités. Un certain discours offre des possibilités de penser cette multiplicité là, comme ça, sans qu'on ait forcément à penser ça en termes de déni ou de processus intrapsychique. Processus intrapsychique, ça supposerait qu'on parle la même langue. Alors, au bout d'un certain temps, on finit par se demander si c'est pas simplement une question de sensibilité et si c'est même la même langue qu'on parle aussi. Ces mots-là sont pas en train finalement identité, sexe, etc. de se détériorer, déterritorialiser, comme dirait Deleuze, enfin de se déplacer d'une manière telle que ça crée des abîmes. Et alors, comment on fait quand on est psychanalyste devant des gens qui ne partagent pas nécessairement cette communauté symbolique autour de ces points, hein, si on ne veut pas... Ça, c'est pas du contre-transfert. C'est quelque chose, c'est pas un processus, une difficulté psychologique. C'est une difficulté qui est d'ordre culturel, d'ordre linguistique, même si ensuite elle peut alimenter chez chacun le contre-transfert. Voilà un peu les choses si ça vous donne envie de
Alors, je répondrai d'abord à votre première remarque. Je ne dirais pas comme vous que ça a changé et que. Les transgenres ont remplacé les transsexuels. Non, parce que nous continuons de voir des patients qui demandent la transformation hormonochirurgicale. Ça continue d'exister, ce noyau a existé, existe encore. Et puis, il s'est développé tout autour une série de choses. Une série de choses, je dirais, ils jouent plus avec leur identité que ne joue le transsexuel. Quand Marcella Yacoub dit. Les gens doivent avoir le droit d'être le matin une femme, à midi un homme. Bon, c'est du jeu, ça. C'est pas du tout la même chose que ce que j'ai appelé un drame existentiel. C'est d'un autre registre. Ce drame existentiel et ce besoin d'une marque corporelle. Ça continue d'exister, nous en voyons. Et ces patients que nous voyons, ils me disent qu'ils n'ont rien à faire de la transidentité. Ils me disent qu'ils ont été très bien traités par les équipes officielles où ils sont allés, alors que les militants disent... C'est énorme, j'ai entendu au ministère dire les patients sont traités... on ne respecte pas la dignité humaine dans ces services. C'est ce qu'on dit des camps de concentration, vous vous rendez compte? Et Bachelot, elle avait l'oreille pour entendre ça et rien d'autre. Alors quand même, hein, c'est pas rien. Donc je ne suis pas d'accord sur ce point. Et il se trouve que vous en voyez peut-être des transgenres, mais moi j'en vois pas, sauf dans les militants qui m'agressent, et évidemment ça ne me passe pas dans une situation d'empathie. Ça, c'est sûr. Alors le deuxième point, l'interprétation psychanalytique. J'ai écrit dans un texte que j'avais guéri de la maladie infantile du psychanalyste devant les transsexuels, qui est de penser tout ça, ça s'analyse, et avec l'analyse, je vais les débarrasser de leur désir de changer de sexe. Alors là, il faut cesser d'avoir ça à présent à l'esprit, parce qu'ils arrivent avec l'idée que c'est ça qu'on va vouloir faire, donc on ne peut pas travailler avec eux, il faut vraiment qu'on ne l'ait pas, il faut qu'on cesse de l'avoir, pas jouer à ne pas l'avoir, il faut qu'on cesse de l'avoir. Ça, c'est une première chose. Deuxièmement, nous avons eu dans le groupe de travail, quelques-uns des membres sont présents, un seul cas d'un patient qui a accepté une analyse proprement dite et qui a fait presque 4 ans d'analyse avec un des membres de notre groupe. Il est parti au moment où il a pris conscience de quelque chose qui était que c'était peut-être pas tellement un homme qui voulait être, mais qui voulait tuer le petit garçon vis-à-vis desquels les parents étaient tellement fiers, voulaient maîtriser. Ouais. Et ça lui a probablement fichu une telle peur qu'il est parti. Mais, un peu une nouvelle pendant des années. Et puis, l'un d'entre nous l'a rencontré, et il était toujours un homme, il était marié, il avait 3 enfants, il était heureux. Il avait fait une seconde analyse avec une femme, et apparemment, il avait pu surmonter ça. Pourquoi je dis déni, je continue à dire déni. Il y a un cas passionnant qui a été publié par Danielle Quinodo, où elle a analysé un homme qui s'est fait transformer en femme à l'âge de 20 ans, qui est venu la voir 20 ans plus tard. Tout le monde à Genève lui a dit « mais t'es folle, c'est inanalysable, comment on peut analyser l'angoisse des castrations chez quelqu'un qui s'est fait castrer ?» Bon, elle ne savait pas, et elle dit qu'elle s'en est sortie en se mettant dans la position d'une femme qui attend un enfant qui ne sait pas encore de quel sexe il est. Je ne sais pas ce qui va se développer, je vais laisser voir ce qui se développe. Et cette personne, finalement, n'arrivait pas à vivre très bien son identité de femme, et ce qu'elle a fait, ce n'est pas de regretter de s'être transformée, elle a dit au contraire, je n'aurais pas pu faire l'économie de la transformation. Mais elle a réussi à accepter des parties masculines en elle, Danielle Quinodo est kleinienne, parle un langage kleinien, mais qui me paraît approprié en l'occurrence, a accepté des parties féminines, des masculines en elle, et à partir de ce moment-là, elle a réussi à pouvoir se construire une vie de femme heureuse. Danielle Quinodo a fait un travail remarquable, c'est une analyste qui, quand elle parle, vous montre vraiment ce qu'elle fait et n'appuie ses théories que sur la clinique. Alors, il y avait une autre chose que je voulais dire à ce propos et qui est en train de m'échapper. Ah, oui. J'ai eu un patient qui vivait encore en homme, qui avait tout à fait l'air d'un homme, qui était marié, qui avait 3 enfants. Il avait eu ses enfants par insémination de son sperme à sa femme. Parce que, disait-il, enfin, apparemment, la gynécologue qui l'a vu, qui n'est pourtant pas de la dernière couvée, je ne sais pas si elle a vu à qui elle avait affaire, il n'a pas parlé de son désir de se faire transformer en femme, mais sa femme avait de l'herpès, il y avait ceci, il y avait cela qui empêchait les rapports, et il a eu 3 enfants comme ça. Ses enfants, il y tenait beaucoup, il les aimait beaucoup. Et il était désespéré parce que il est allé voir les collègues parisiens qui ont dit « Tant que vos enfants sont mineurs, nous, on envisage difficilement de vous transformer en femme. » Il était donc tout à fait désespéré. À la fin d'une séance, je lui ai dit « Mais ces enfants que vous aimez tant, c'est quand même grâce à ces parties masculines en vous que vous les avez eues. » Une partie. L'hôtesse me prévient que mon patient est complètement effondré dans la salle d'attente. Alors, je sors, je ne m'assois plus de lui, je parle avec lui. Je lui avais dit la chose la plus terrible qui soit, parce que justement, lui, il aurait voulu être la mère de ses enfants, les avoir portés dans son ventre. Ce qui est parfaitement impossible, bien sûr. Et moi, croyant lui dire une parole positive, je lui avais dit quelque chose d'absolument effroyable. Alors, je ne sais pas si je dis des interprétations à ces patients. À l'heure actuelle, j'ai le sentiment d'un accompagnement, mais pas du tout d'une activité interprétative qui a été possible dans le cas du patient dont nous parlons qui a fait une analyse avant. Et puis, il y a tous ceux qui viennent demander une psychothérapie et même une analyse après. Et à ce moment-là, il y a bien un travail psychologique de ce qu'ils avaient dénié avant. De sorte que ce déni, je continue à penser que c'est quand même de l'impression.
C'est ça chez Daniel Kinodose. L'opération a déjà eu lieu. Les gens sont stabilisés. La personne est stabilisée. Ça.
Bon, à mon tour, mais plus rapidement. Je vais juste pointer deux aspects qui ont retenu vraiment mon attention dans votre livre et sur lesquels je serai content de vous entendre, Colette. Dans le droit fil de ce qu'a dit Pierre-Henri Castel, j'ai été très frappé du passage sur l'identité narrative. Bon, c'est vrai que Paul Ricoeur fait vraiment partie de ces compagnons philosophes de route qui m'ont beaucoup inspiré, que cette identité narrative, qu'elle soit conjuguée à une échelle collective, ce que Ricoeur a fait plus à la fin de sa vie, ou à une échelle individuelle, c'est à l'évidence une source métaphorique, non sans danger toujours pour le psychanalyste, mais une source métaphorique intéressante. Pouvoir mettre en travail les points de crispation et de fécondité de sa vie à partir d'un récit toujours renouvelé, vivant, et dont la plasticité est vraiment la signature la plus explicite de sa suffisamment bonne santé, alors qu'effectivement l'impossibilité de mettre à jour et de partager dans une intersubjectivité un récit de vie consistant serait comme effectivement un signe de souffrance existentielle assez redoutable. Alors, vous dites, et ça m'a vraiment frappé, la personne transsexuelle est dans l'impossibilité de construire un tel récit. Comme si vous aviez l'impression que cette métabolisation de l'opération, cette révolution identitaire, n'était pas envisageable dans un travail de mutation, de métamorphose d'identité narrative. Alors ça m'a frappé, parce que je me suis dit, mais ça colle pas avec l'idée que je me fais du pouvoir thérapeutique de Colette Chilan. Alors peut-être je le dis avec un peu d'idéalisation, mais je ne vois pas pourquoi est-ce que certains, parce que la barre est haute, il faudrait le dire sans naïveté, certains, et notamment grâce au travail partagé avec vous, ne pourraient pas relever le défi d'envisager une reconstruction identitaire. Et je veux demander, en écoutant Pierre-Henri Castel tout à l'heure, si effectivement, via l'attracteur sociopolitique et via la redistribution, la déterritorialisation qui se joue aujourd'hui autour de l'individu, je me demande si effectivement, ce qui n'est pas pour vous quelque chose de incompréhensible et énigmatique, parce que peut-être vous ne le souhaitez pas, c'est que certaines personnes arrivent à envisager un récit identitaire, une identité narrative, en dépit de cette révolution incroyable du transsexualisme. Alors, c'est un peu corsé comme question, mais ça m'intéresse de vous voir réagir à ça.
Je regrette que je n'ai pas apporté un petit document que j'aurais pu faire circuler. Je travaille depuis 12 ans dans un sécos qui est le seul sécos de France qui a accepté d'inséminer la compagne ou la femme d'un homme d'origine transsexuelle. Et Pierre Jouannet, qui dirigeait ces écosses à l'époque, demandait, et j'étais tout à fait d'accord avec lui, que la famille, le père et la mère, soient prêts à dire à l'enfant la vérité sur son origine. C'est-à-dire qu'il est né pariadé d'un père qui avait été une petite fille dans l'enfance. Alors, la quasi-totalité, il n'y en a qu'un qui a refusé l'idée de dire ses origines. La quasi-totalité était d'accord. Les enfants, il est né à l'heure actuelle 43 enfants. Ceux que j'ai revus, disons, les plus âgés, entre 7, 8, 9, 10 ans, les aînés ont 10 ans à l'heure actuelle. Les parents se sont trouvés en difficulté pour dire ce qu'ils avaient pensé qu'ils diraient toujours. Et ils avaient la représentation qu'il fallait asseoir l'enfant sur une chaise et lui dire « je suis transsexuel, j'étais transsexuel », parce que pour eux c'est un passé. Ben, c'est pas de ça qu'il s'agissait. Alors, il y a un père, qui est le père de trois garçons, pariadé, hein, qui a dessiné un petit livret, qu'il appelle « Mon histoire à moi », qui lui a été inspiré par le livret des Écosses, « Mon livre à moi », quelque chose comme ça. « Mon histoire à moi », lui, c'est « Mon livre à moi ». Bon, il a dessiné quelque chose, alors il dessine. Un père et une mère qui s'aiment, la mère a un gros ventre, elle a un enfant, il naît. Et quand il naît, tout le monde a cru qu'il était une fille parce qu'il n'avait pas de zizi. Mais lui, il voulait pas mettre de robe, il voulait pas jouer avec les filles, il décrit toutes les conduites masculines qu'il avait, comme dans Tomboy, on pourra parler de Tomboy si vous voulez, et il insiste tellement que les parents finissent par le conduire chez les médecins qui l'écoutent, et on ne peut pas, dit-il, faire pousser le sexe avec les hormones, mais on peut faire pousser la barbe, ils ont donc fait pousser la barbe. Et puis il a rencontré sa chérie, la maman du petit garçon, là, de l'enfant qu'ils ont eu aux Écosses. Et il n'avait pas de spermatozoïde, donc il est retourné voir, puisqu'il n'y avait pas de zizi, il n'y avait pas de spermatozoïde. Il est retourné vers les médecins qui lui ont permis d'avoir un enfant. Puis alors on voit de nouveau une femme enceinte, la mère de l'enfant. Et maintenant c'est ton histoire à toi qui commence. Alors, dans un premier temps, quand j'ai vu ce petit livre, il est talentueux, c'était dit avec des mots simples, c'était gentiment dessiné. J'ai tiqué parce que il disait, on a cru que j'étais une fille, il disait pas j'étais une fille et j'aurais voulu être un garçon. Et ça m'embêtait de donner ça. Bon, alors, finalement, comme les parents étaient dans l'embarras, parce qu'ils étaient incapables de dire un mot sur leur enfance vécue en tant que fille, un test, c'est l'album de famille. Il n'y a plus d'album de famille avec les photos. Il reste trois photos qui ne sont pas des photos en petite fille. Ils peuvent pas parler de leur enfance en fille. Ils ont découvert tout d'un coup qu'il ne s'agissait pas de dire quand j'étais une fille, mais de ce père, il a décrit ce qu'il vivait. Je refusais les robes. Alors ça, il pouvait tout à fait le dire. Il pouvait dire, mais il n'arrivait pas spontanément à raconter ça à leur enfant. Alors les parents sont enthousiastes du petit livre, je leur donne le petit livre, on a lu le petit livre quelquefois avec l'enfant et les parents, il y a un enfant de 10 ans qui l'a lu avec beaucoup d'intérêt, à voix haute, très bien, riant et tout et tout, et puis il a dit, mais tu sais, j'avais compris, je savais, c'était pas aussi traumatique que ça. Alors, j'arrive avec un autre père qui me dit, mais je peux pas dire ça, c'est pas vrai. J'étais pas un garçon, j'étais une fille. Je voulais devenir un garçon, je voulais me transformer en garçon, mais j'étais, il y en a un sur 40 qui m'a dit ça. Oui. Ce que je pense le degré zéro minimum du déni, les autres, ils sont tout à fait d'accord pour dire j'étais un garçon, mais on m'a pris pour une fille.
Il y a quelque chose qui coince entre le discours d'identité narrative et le discours générationnel. Mais peut-être y a-t-il néanmoins des îlots de personnes qui vont soigneusement se dégager d'un projet filiatif et qui vont arriver à une reconstruction narrative, mais très individuelle et probablement peu...
Généralement, le caractère vertical. Le plus commun des transsexuels que je vois, c'est de dire « je ne me souviens pas de mon enfance ».
C'est ça.
Ils racontent rien de leur enfance. Et après l'opération, ils commencent à parler de leur enfance.
Et l'affiliatif prend le pas sur le générationnel, sur le probablement. Alors, rapidement, l'autre question, et je m'en tiens là, on va tous discuter ensemble après. Mais vous avez vendu la mèche avec Daniel Quinodoz. On en a déjà discuté à un congrès... du CICLA, peut-être vous vous souvenez
de
ça.
Oui, bon.
Travaillant effectivement avec beaucoup de parents, entre guillemets, enceints pendant la période prénatale, on est vraiment face à un laboratoire où, pour le dire vite, on voit des parents s'interroger sur le sexe souhaité de leur enfant. Je veux le savoir, je ne veux pas le savoir. Donc, moi, il me semble que là, si on reprend la bonne vieille notion de bisexualité psychique, on va dire que, grâce à l'échographie, il y a aujourd'hui une sorte de test grandeur nature projectif qui est proposé aux parents. Est-ce que vous voulez bien vous prononcer par rapport à votre bisexualité psychique et à vos identifications projectives à l'égard de l'enfant ? Il y a quelque chose comme ça qui se joue. Et c'est très intéressant de voir... Et je me demande si ça ne fait pas partie des éléments à explorer à l'avenir sur le premier chapitre de la biographie de ces transsexuels ou de ces transgenres, de se demander qu'est-ce qu'il en a été de la position parentale dans cette période prénatale. Où effectivement, comme le vivait contre-transférentiellement Daniel Quinodoz, il s'agit, dans le meilleur des cas, on pourrait dire avec le poète Keats, d'être dans une forme de capacité négative. C'est-à-dire, je ne sais pas, mais je me nourris de la plénitude du je ne sais pas. Et j'en fais mes choux gras, et je vais pouvoir y enraciner quelque chose qui sera ouvert à la bisexualité de mon fils virtuel, de ma fille virtuelle. Bon, ça, on va le dire, c'est quelque chose qui sonne assez harmonieusement. Et on voit un certain nombre de parents qui, par rapport à ce test projectif grandeur nature proposé dans les maternités françaises de Navarre, qui au contraire sont dans des positions réflexes immédiates où ils ne supportent pas cette possibilité de nos choix, et ils veulent absolument savoir, ou ne pas savoir d'ailleurs, parce que je pense qu'il y a des, grands phobiques d'une bisexualité large, tant dans ceux qui veulent savoir impatiemment que dans ceux qui tiennent phobiquement à distance l'affaire. Alors, qu'est-ce que vous pensez de ça? Est-ce que vous ne croyez pas qu'on pourrait réécrire un certain nombre de passages de Stoller ou de grands auteurs en incluant maintenant ce qu'il en est de cette émergence prénatale de l'identité sexuelle de l'enfant à naître?
Non, je vous suis pas.
Vous ne me suivez pas?
Non, je vous suis pas parce que je vais prendre un exemple. On attachait il y a un certain nombre d'années beaucoup d'importance au fait que l'enfant était désiré ou pas.
Ouais.
Eh bien, oui, moi je crois que ce qui est important, c'est comment les parents réagissent au moment de la naissance. Parce qu'il y a des parents qui ont vraiment désiré, ou qui ont désiré un enfant d'un certain sexe, et qui sont absolument séduits par ce bébé, et ça disparaît, ça ne joue aucun rôle. Et il y a d'autres cas où les parents ont l'enfant du sexe qu'ils désiraient et tout se passe mal. Je ne sais pas ça que je retrouve dans les parents que je vois avec des enfants jeunes qui ont des troubles d'identité sexuée. C'est pas lié à cette position-là des parents. C'est lié à une position beaucoup plus complexe des parents vis-à-vis de leur propre identité sexuée, vis-à-vis de ce qu'ils se représentent de la masculinité et de la féminité. En particulier, on voit souvent se représenter la masculinité comme quelque chose de terrible et de dangereux dans l'histoire familiale d'un de nos petits patients. On avait une histoire où il y avait des meurtres, des suicides, ils venaient de Corse, enfin bon, des choses terribles et qui jouaient un grand rôle pour se représenter l'homme comme vraiment porteur d'une arme, comme sur les grottes, les parois des grottes de Lascaux. Hein. Le sexe masculin, une arme, et le sexe féminin, une blessure.
Et vous ne croyez pas qu'une femme enceinte peut avoir ce type de fantasmagorie à l'égard de l'enfant qu'elle porte? Moi, je crois. Enfin, écoutez, l'expérience clinique.
Oui, je ne crois pas que ce soit ça qui joue dans d'accord. le développement.
C'est,
je ne dis d'accord. pas qu'elle n'est pas ses fantasmes.
D'accord.
Mais je dis que quand l'enfant est là, elle interagit avec lui à partir de quantité d'autres choses. En particulier de la manière dont l'enfant, lui aussi, va la solliciter.
Bien sûr, bien sûr, bien sûr.
Alors que le fœtus ne peut pas la solliciter de la même manière.
C'est parti. Alain.
Oui, alors j'ai envie de réagir tout de suite, Colette, parce qu'on a parlé ensemble ouais. avec des familles. C'est pour réagir à ce que tu viens de dire. Qu'est-ce qui se joue avant la naissance ou dans les premiers temps la naissance de l'enfant? L'expérience qu'on a eue, c'est de voir, tu as vu en consultation, les enfants qui d'emblée se présentaient comme voulant être de l'autre sexe. Ils disent, c'est pas encore je suis un garçon, je suis une fille, mais mettaient en scène un désir de vivre une autre identité sexuée. Et l'expérience a été de prendre l'enfant en traitement en psychothérapie analytique et chacun des deux parents. Il se trouve qu'on a été un certain nombre à travailler dans ce contexte. Une des conclusions. Bon, d'abord, la question du drame existentiel, c'est une façon aussi de parler de la survie psychique. C'est-à-dire que ce qu'on a pu voir, c'est qu'un enfant qui avait des troubles de l'identité sexuée, c'était un enfant pour qui sa survie psychique dépendait de appartenir à un autre sexe que son sexe biologique. Et ça parce que ça correspondait à un désir inconscient de chacun des deux parents. Alors je suis assez sensible à ce que tu dis par rapport déjà avant la naissance, parce que tu as des parents qui peuvent laisser un jeu possible et d'autres qui ne peuvent pas, parce qu'il s'agit de leur propre identité et survie psychique. Alors, dans ton livre, Colette, tu soulignes quelque chose que les transformations transsexuelles chez les filles au départ, par rapport aux garçons au départ, ont un meilleur résultat. Alors, et tu dis, c'est là une question à laquelle on ne peut pas répondre. On peut peut-être émettre des hypothèses quant à la psychosexualité des hommes et des femmes. Et est-ce que tu ne pourrais pas dire que pour un homme, l'enjeu de la psychosexualité quant à la question de la désidentification par rapport à l'imago maternel est éventuellement plus problématique à certains moments que pour la fille. En tout cas, c'est ce qu'on peut observer. Et que du coup, la solution transsexuelle pourrait être une solution qui est davantage, disons, problématique chez un homme au départ. Je pense à un patient que tu m'as adressé, que je n'ai vu qu'une fois parce qu'il n'a pas donné suite à un projet de traitement. C'est un homme qui était médecin, père de famille. Il avait une cinquantaine d'années et il voulait suivre tout le cheminement de la transformation d'homme en femme. Je ne l'ai vu qu'une fois. Ce qui m'a beaucoup intéressé dans ce qu'il a dit dans son discours, j'ai demandé à partir de quand cette idée avait été plus prégnante, plus importante. Ah, et là, du coup, il réfléchit, mais il dit, il y a 3 ans, ma mère est décédée. Et à ce moment-là, c'est devenu plus impératif, la transformation. Ce qui ressortait, c'est qu'il, dans ses relations, dans ce qu'il a pu dire de ses relations à sa mère, c'est que sa mère était une femme qui, de son point de vue, avait été toujours distante. Alors, au fond, la transformation après la mort de la mère est une façon, ou peut-être une solution mélancolique, de retrouver sa mère morte, mais qui prenait sa source dans une histoire infantile où, en quelque sorte, il y avait eu un enjeu identificatoire très conflictuel. De l'ordre, maintenant on retrouve la question, quel fonctionnement psychique, déni, clivage? Oui, on peut parler à certains moments de déni, clivage, d'où la difficulté de travailler sur un plan psychanalytique, comme avec d'autres organisations, en particulier dans les organisations limites où il y a des enjeux du déni de clivage, qui sont extrêmement difficiles à mobiliser. Et d'autant plus que, je pense, dans la problématique transsexuelle, dans la mesure où ce déni est accompagné à un niveau socio-culturel. Et il y a là, je dirais, un défaut, en quelque sorte, un risque, mais un défaut, pour permettre une symbolisation et retrouver ce que tu évoques très justement de la construction d'une identité narrative, d'une histoire personnelle, du fait qu'il y a un court-circuit. Et bon, je pense que le travail de Colette a grand mérite de je dirais, te donne pas toutes les réponses, mais tu poses beaucoup d'énigmes auxquelles on peut essayer chacun d'entre nous de répondre quand on voit ce type de patient. Et c'est pour ça que j'étais très intéressé par ce que notre discutant a apporté oui. par rapport, parce que j'ai l'impression que vous avez mis l'accent
par la culture.
La reprise par la culture.
C'est repris par la culture. Je sais, c'est un peu vertigineux, mais pourquoi ne pas aller un tout petit peu plus loin et de dire oui, c'est un autre mode de nouage, de symbolisation, etc., qui fait que chez certains individus tout à fait singuliers, c'est remarquablement opératoire. Avec deux conditions impératives, c'est que c'est vraiment étroitement lié à la vie de groupe. C'est-à-dire que moi, il m'a toujours semblé qu'un transgenre seul, c'est presque un transgenre mort. Il y a les choses terriblement comme ça. C'est l'expérience que j'ai, c'est que moi, j'ai toujours poussé les gens qui sont venus me voir à aller militer, parce que c'est d'être avec des pairs, à partager cette expérience, etc. Sauf qu'une fois, ils sont dans le groupe. Dans le groupe Castel, c'est le diable, et au bout d'un certain temps, ils ne viennent plus. Bon. Mais avec une sorte de nuage avec autrui, comme ça, qui, dont on ne peut quand même pas dire de manière péjorative que c'est une subculture, que c'est que du body art. Non, c'est un mode d'agencement qui est certainement pas moins respectable que comme les gens qui ont deux langues, comme les gens qui ont deux cultures, comme les gens qui sont des transplantés, divisés, exilés, etc. Et là, c'est ça le point. Jusqu'à quel point est-ce qu'il y a un critère pour dire à partir de quel moment c'est pathologique ? À quel moment c'est simplement le fait qu'on vit dans un monde cassé où les gens ils bricolent avec ce qu'ils font, quoi. Ils attrapent des trucs. Et c'est ça, je trouve, qui est très interrogeant pour nous. Parce que quand Colette nous dit qu'elle accompagne les gens, ben je crois que c'est ça. Au fond, on les accompagne dans un renouage qui peut être éventuellement une certaine forme quand même d'identité narrative, pour prendre ce terme-là. Oui. Sauf qu'elle est très scandaleuse pour la majorité de la société.
Il y a des trous, il y a des trous.
Et puis il y a des trous. Mais l'un dans la nôtre, il n'y a pas de trous.
Oui.
Right. On ne boit pas.
Oui. Mais par exemple, des trous comme l'album de famille, c'est un sacré trou.
Quoi. Oui, un trou comme le whisky, c'est un gros trou aussi.
Oui, mais il y a un phénomène que tous ceux qui s'occupent de transsexuels, je dis encore, je parle de transsexuels, pas de transgenres, c'est clair. Tous ceux qui s'occupent de transsexuels savent qu'il y a une différence entre les masculins vers féminins et les féminins vers masculins. Et j'ai essayé de réfléchir et comprendre pourquoi. Une constatation qu'ils font tous, par exemple, c'est qu'il y a beaucoup moins de transsexuels féminins vers masculins qui deviennent des assistés sociaux. Ils travaillent, ils s'insèrent dans l'existence, etc., etc. Bon, il n'y en a pas qui se prostituent, comme me disait Jacques Breton. Le seul cas que j'ai connu lié à la prostitution de transsexuels féminins vers masculins, c'est une femme qui, devenue homme, est devenue souteneur. Bon, les prostituées, c'est toujours du côté masculin vers féminin. Et j'ai essayé de réfléchir là-dessus en pensant aux petits-enfants. Les petits-enfants, les petits garçons qui refusent leur sexe, Zucker et son équipe ont bien montré que ce sont des petits garçons qui sont particulièrement beaux, qui ont une grande attractiveness. Tout le monde passe dans la rue et dit « Oh, quelle jolie petite fille vous avez dans votre landau, madame !» Comme si un bébé garçon était nécessairement moins beau qu'un bébé fille. C'est absurde, mais c'est comme ça. Et que les filles, au contraire, ont été... Alors, j'ai traduit, je ne me rappelle plus quelle était l'expression anglaise, j'ai traduit « affreux jojo ». Qu'est-ce que j'ai pris pour les affreux jojo ? Mais ces petites filles, elles ont une tonicité musculaire, elles ont besoin d'activité. Alors, la petite fille qui veut être un garçon, elle veut s'exprimer, elle veut dans la vie, prendre des responsabilités. Elle, là, et elle s'insère, elle devient un homme. Le petit garçon, il veut séduire. Et bien ça, ça vous conduit à une organisation de la personnalité tout à fait différente quand tout est axé sur la séduction. Hein.
Je ne sais pas s'ils veulent séduire ou si la seule chose qu'ils peuvent faire pour survivre, c'est essayer de séduire. Hein.
Oui,
c'est
oui,
plutôt
oui,
en sens là que j'entends.
Absolument.
Quand vous n'avez pas de place. Hein.
Mais c'est pas qu'on n'a pas de place. J'ai vu un petit garçon, il y avait trois frères. Et lui, il était celui du milieu, il avait 8 ans quand il est venu en consultation. Et dans mon bureau, il a sangloté, mais sangloté à vous fendre le cœur parce qu'il était un petit garçon. C'était, mais il était parfaitement mignon, il était parfaitement séduisant. C'est pas ça, c'est vraiment le nombre de patients transsexuels qui m'ont dit non pas je veux être une femme, mais je veux être la plus belle femme du monde. Oui. C'est quand même un autre discours. Et c'est la seule chose que j'ai trouvée. Alors les infirmières dans les services où on opère les deux sexes vous disent c'est toujours avec les masculins vers féminins qu'on a des complications et des ennuis. C'est pas avec les féminins vers masculins. On pourrait pas appliquer la formule de Freud qui décrit ce qui se passe chez le garçon et qui dit c'est mutatis mutandis, c'est la même chose pour la femme. Non. Mais non, c'est pas mutatis mutandis, c'est autre chose.
La conséquence de ça, ça n'est pas de dire que, moi c'est ce que j'ai toujours soutenu, c'est que le mot même de transsexualisme est déjà une théorie trompeuse, puisqu'il fait comme si le sexe était quelque chose où on pouvait passer d'un côté vers l'autre, comme on passe de l'autre vers le premier. Et que ça, c'est quelque chose qui n'existe que du point de vue du moi. Alors qu'en réalité, il n'y a aucune espèce de raison de penser que ce que demande une femme qui veut se transformer, c'est la même chose que ce que demande un homme qui veut se transformer.
C'est pas la même chose.
C'est pas la même chose, et donc même par les
c'est occuper une position, mais une position qui n'est une autre position, une position qui est définie autrement.
C'est trans et sexe, c'est cercle carré. Le sexe, il n'y a pas trans, il y a sexe. Voilà. Et donc, alors c'est peut-être que là vous. À plusieurs endroits, j'avais noté des endroits, mais on sent bien dans votre livre que vous allez vraiment vers l'idée qu'au fond, plus on écoute les transsexuels, plus on est sensible aux nuances qui les séparent les uns des autres, d'une manière subtile, qui ne prête pas à une catégorisation tranchée. Non. C'est pas simplement qu'ils se reconnaissent pas comme des malades mentaux, mais c'est qu'un des effets, je trouve, de l'analyse, c'est de ne pas se reconnaître comme appartenant à une catégorie. Même transsexuel et même transgenre. C'est justement cette espèce de déplacement par rapport à la catégorisation. Est-ce que ça vous réagit ?
Je pensais surtout, moi, au fait que je ne les catégorisais pas. Je ne pensais pas à leur catégorisation à eux.
Petite question. Peut-être est-ce qu'on pourrait continuer le débat autour d'un verre. En tout cas, il nous faut remercier la vitalité, la tonicité, l'intelligence et la chaleur de Colette. Merci vraiment mille fois. Merci Pierre-Henri Castel. C'était une soirée, une cyberscopie tout à fait savoureuse. Merci à vous tous d'être venus. Bravo Colette. Merci.